En ce nouvel an 2021, les restrictions dues à la pandémie du Covid-19 se maintiennent et je produis mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAE en langue française. Ainsi, qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles en attendant le retour au studio de Radio Nationale Argentine. Maintenant, place à l'actualité. Les titres. Plus de 200 000 doses du vaccin Sputnik V, validé par The Lancet, sont arrivées en Argentine. La capitale péruvienne, Lima, est mise en quarantaine obligatoire et le marché noir de tubes à oxygène au Mexique se développe. En Argentine, une taxe sur les grandes fortunes est mise en place afin de collecter des fonds pour lutter contre la pandémie. L'Argentine exprime sa préoccupation quant à la situation au Myanmar après le coup d'État. La région patagonienne d'El Bolson a subi le pire incendie de forêt de son histoire, selon les autorités locales. La finale de la Coupe Libertadores au Brésil a été remportée par Palmeiras, qui a battu Santos 1-0. La campagne de vaccination se poursuit en Argentine avec le Sputnik V développé par l'Institut Gamaleya de Russie. Un avion d'Aerolíneas Argentinas a apporté 220 000 nouvelles doses de Moscou la semaine dernière pour notre pays, en plus de 20 000 pour la Bolivie. L'envoi est arrivé peu avant que la revue médicale de Lancet ne publie un rapport selon lequel Sputnik V est efficace à plus de 91%. En ce qui concerne l'inoculation, le président argentin Alberto Fernández s'est exprimé par téléconférence au Forum économique de Davos et a déclaré « Les vaccins doivent être un bien public mondial ». Il l'a dit après avoir appris qu'une douzaine de pays monopolisent plus de 90% des vaccins dans le monde, dans un contexte de pénurie et de retard des entreprises pharmaceutiques dans les livraisons convenues avec les États. En raison de la pandémie, l'Argentine maintiendra la distanciation sociale obligatoire, ou DISPO, jusqu'au 28 février, ce qui implique une série de restrictions visant à freiner la propagation du coronavirus, et qui est plus souple que l'état d'isolement ou l'ASPO. L'interdiction des rassemblements de masse et le respect des protocoles sanitaires dans tous les milieux restent en vigueur. La nouveauté de cette prolongation est qu'elle permet la réouverture des écoles selon les critères fixés par les provinces. Rappelons que les syndicats d'enseignants s'opposent à un retour en classe avec un taux de fréquentation de 100%, comme le prévoit, par exemple, le gouvernement de la ville de Buenos Aires. Selon les syndicats, en raison de l'état de détérioration de nombreuses écoles, il n'est pas possible de respecter les normes de distanciation sociale ou d'hygiène pour éviter la contagion. À ce sujet, un juge de la capitale a convoqué les autorités de Buenos Aires pour expliquer comment les protocoles et les tests de réouverture des écoles seront effectués en réponse à une demande des enseignants. Mais certains groupes de parents, selon les médias locaux, vont déposer une injonction au tribunal pour garantir la présence de tous les élèves au-delà de tout critère épidémiologique. Dans un autre ordre d'idées, est également entrée en vigueur la directive imposant aux compagnies aériennes de réduire de 30% leur fréquence à destination et en provenance des zones considérées comme à risque pour la pandémie, États-Unis, Mexique et Europe, et de 50% vers le Brésil, alors que se poursuit la fermeture des frontières terrestres pour les étrangers non résidents. D'autre part, Amnesty International a averti qu'elle se tournera vers les organisations internationales si le gouvernement argentin n'intervient pas à Formosa. Dans cette province du Nord, selon des allégations, des abus et des actes arbitraires sont commis dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, en particulier dans les centres d'isolement pour les cas positifs et suspects. Mardi, les représentants d'Amnesty ont été reçus par le chef de cabinet Santiago Cafiero, qui leur a assuré que la situation était suivie de près. La semaine dernière, le secrétaire aux droits de l'homme, Horacio Pietragala, s'est rendu à Formosa pour vérifier les allégations. « Nous avons pu détecter des cas isolés, mais nous ne pouvons pas parler de violations systématiques des droits de l'homme ni de centres de détention clandestins », a estimé le fonctionnaire après la visite. 10 régions du Pérou, dont Lima et El Callao, ont été placés en quarantaine stricte pendant 2 semaines en raison d'une recrudescence des infections au coronavirus, d'une pénurie d'oxygène médical et de retard dans l'arrivée des vaccins dans le pays, a rapporté la presse locale. Le confinement couvre Lima, à la fois la zone métropolitaine de la capitale et le département environnant, la province voisine del Callao et les départements d'Ancash, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín et Parco, qui sont considérés comme étant en état d'alerte extrême pour la propagation du virus. Dans ces régions, qui représentent environ la moitié de la population du pays, les déplacements hors du domicile seront limités jusqu'au 14 février, sauf pour une promenade d'une heure par jour et les achats de première nécessité dans les magasins, qui ne pourront recevoir des clients que jusqu'à 40% de leur capacité, tandis que les restaurants et les bars ne pourront vendre que des plats à emporter ou des livraisons à domicile. Parmi les activités exemptées de ces restrictions figurent l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, l'énergie, les hydrocarbures, l'exploitation minière, l'industrie manufacturière, la construction, les cliniques, les pharmacies, les services vétérinaires, le transport ferroviaire, l'expédition et la répartition de véhicules à moteur et de véhicules non motorisés, selon l'agence de presse Andine. Et le marché noir de tubes à oxygène au Mexique se développe. Le manque d'intrants a généré une augmentation de son prix, allant jusqu'à 700%, accompagné d'un marché noir que les autorités prétendent combattre. Le président André Manuel López Obrador continue de se remettre favorablement du Covid, tout en exerçant ses fonctions de manière isolée selon des sources officielles. De son côté, le Chili va relancer sa campagne de vaccination grâce à l'achat de 4 millions de doses auprès du laboratoire chinois Sinopharm. Par ailleurs, au Brésil, l'Église catholique a dénoncé le président Jair Bolsonaro pour mauvaise gestion de la pandémie. Avec plus de 220 000 victimes fatales, c'est le pays qui compte le plus grand nombre de décès dus au coronavirus dans le monde après les États-Unis. La conférence des évêques a soulevé la question devant les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé pour comportements contradictoires, négationnisme et indifférence à la douleur. Le document souligne que sur 10 décès par Covid dans le monde, une des victimes est brésilienne. En Bolivie, les médecins de la ville de Santa Cruz de la Sierra ont fait une grève de 24 heures pour réclamer que les autorités imposent une quarantaine stricte afin d'arrêter la propagation de la maladie. Finalement, le nouveau président américain Joe Biden a signé un décret rendant obligatoire le port du masque dans tous les transports publics. Cette mesure concerne les avions, les trains, les métros, les bus, les taxis et les transbordeurs, ainsi que les ports et les aéroports. En Argentine est entré en vigueur l'impôt sur les grandes fortunes pour collecter des fonds pour la lutte contre la pandémie du coronavirus. Cette taxe a été créée par une loi du Congrès à la fin de 2020 et réglementée par un décret présidentiel la semaine dernière. Elle atteint ceux qui ont déclaré un patrimoine de plus de 200 millions de pesos, ce qui équivaut à un peu plus de 2 millions de dollars. Selon des sources officielles, sur les 44 millions d'habitants de l'Argentine, seules 12 000 personnes paieront la taxe, qui ne sera perçue qu'une seule fois. L'impôt est de 3,5% pour les actifs en Argentine et de 5,5% pour ceux à l'étranger. Le gouvernement affirme que la taxe permettra de récolter environ 3 milliards de dollars qui seront utilisés pour les fournitures médicales, l'aide aux moyennes entreprises et les bourses d'études, entre autres. Bien qu'il concerne les particuliers et non les entreprises, les lobbies comme la Société Rurale Argentine ont exprimé leur rejet de la nouvelle taxe et disent craindre qu'elle ne devienne permanente. Quant à elle, l'Union Industrielle Argentine l'a qualifiée de confiscation et a déclaré qu'elle décourageait les investissements. En revanche, l'ONG britannique Oxfam a fait l'éloge de cette taxe lors de son intervention au Forum économique de Davos. L'organisation a présenté un rapport intitulé « Le virus de l'inégalité » dans lequel elle dénonce que la pandémie a aggravé les inégalités dans le monde. Pour Oxfam, les pays devraient augmenter les taxes sur les plus riches, comme l'Argentine l'a fait récemment. Par ailleurs, l'Argentine a payé une échéance de 315 millions de dollars avec le Fonds monétaire international, alors que Buenos Aires négocie les derniers détails d'un accord pour rembourser la dette totale de 44 milliards de dollars avec le FMI. Le ministère argentin des Affaires étrangères a publié une déclaration exprimant sa préoccupation quant à la situation au Myanmar après le coup d'état militaire qui a renversé le gouvernement démocratique de ce pays asiatique. Dans le message officiel, Buenos Aires a fait part de son inquiétude concernant l'arrestation du président Win Myint, de la conseillère d'État et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi et d'autres dirigeants politiques. En outre, la communication réclame que les résultats des élections du 8 novembre soient respectés, qui, selon les militaires, étaient frauduleux. Ces accusations ont été utilisées par l'armée pour reprendre le pouvoir dans l'ancienne Birmanie, sous dictature pendant une grande partie du dernier demi-siècle. Il convient de noter que le chef du coup d'État, le général Minh Aung Hlaing, a été inculpé par un tribunal argentin pour crimes contre l'humanité en novembre 2019. Il est accusé de génocide contre la minorité musulmane Rohingya dans l'état de Rakhine en 2017, une affaire également portée devant la Cour pénale internationale de La Haye. La plainte a été déposée devant un tribunal de Buenos Aires par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, dont les maires de la place de Mai. Outre les militaires, le gouvernement civil, désormais déchu, est accusé de couvrir l'exode forcé de Rohingya. À l'époque, Suu Kyi avait elle-même défendu les forces armées de son pays, bien qu'elle ait reconnu qu'il y avait peut-être eu un usage excessif de la force. Un incendie de forêt dans la région d'El Bolson, au nord de la Patagonie, a détruit près de 7000 hectares de forêt sauvage. Bruno Pogliano, maire de cette ville de la province de Rio Negro, a déclaré qu'il s'agissait de la plus grande perte environnementale et écologique de l'histoire. Les dommages sont irréparables, a-t-il dit, car parmi les arbres brûlés figurent des lengas de 300 ans et des cyprès de plus de 100 ans. Pour cette catastrophe, 6 personnes ont été inculpées par les tribunaux, accusées de ne pas avoir correctement éteint le feu qu'elles avaient allumé pour un barbecue. Les braises qu'ils ont laissées derrière eux, selon les enquêteurs, ont provoqué l'incendie qui n'a toujours pas pu être maîtrisé malgré les pluies du dernier week-end. Dans d'autres nouvelles environnementales, 3 jaguars ont été relâchés dans la réserve naturelle des marais d'Ivela dans la province de Corrientes. Cette espèce féline avait disparu de la région à cause du braconnage au cours du XXe siècle. Mais la Fondation Rewilding Argentina mène un projet de repeuplement avec des spécimens apportés du Brésil. Une femelle du nom de Juruna a donné naissance à 2 petits en janvier dernier, ont découvert les équipes de conservation travaillant dans les zones humides. La nouvelle a été célébrée par l'acteur et militant environnemental américain Leonardo DiCaprio. Dans son Instagram, le lauréat de l'Oscar a félicité Rewilding, les gouvernements d'Argentine et de Corrientes et le peuple de Corrientes pour cette réussite dans la réintroduction d'une espèce emblématique à Ivela. Sport. La finale brésilienne de la Copa Libertadores a été remportée par Palmeiras qui a battu Santos 1-0 au stade Maracana de Rio de Janeiro. Palmeiras de la ville de São Paulo a ainsi remporté sa 2e Libertadores après sa première coupe en 1999. Les Brésiliens se rendront la semaine prochaine au Qatar pour y disputer la Coupe du Monde des clubs avec les champions des autres continents. Le Bayern Munich d'Allemagne, les Tigres du Mexique, Ulsan Hyundai de Corée du Sud, Al Ahly d'Égypte, Al Duail du Qatar. Alors qu'il n'y aura pas de représentants de la zone Océanie, car les Néo-Zélandais d'Auckland City se sont retirés de la compétition en raison de la pandémie. Sur un autre front, Platense est de retour en Division 1 du football argentin après 22 ans. L'équipe de Vicente López, banlieue nord de Buenos Aires, a battu Estudiantes de Río Cuarto 4-2 au tir au but en finale d'un barrage de promotion. La semaine dernière, je vous ai proposé un programme consacré à la Nuit des idées. L'une des participantes était Moira Cristia, historienne et chercheuse du CONICET d'Argentine, le Conseil national de recherche scientifique et technique, qui a mis en dialogue l'histoire de la résistance culturelle en France à la dictature argentine de 1976 à 1983, en particulier la manifestation organisée en novembre 1981 à Paris par l'Association internationale de défense des artistes, l'AIDA, avec la présence, entre autres, de Julio Cortázar et de Lionel Jospin. Lors de sa participation, Moira Cristia a présenté un documentaire avec de nombreux témoignages en français et en espagnol. Écoutons comment elle-même a présenté son sujet et la participation en 1981 de Claude Lelouch, Ariane Noskin et Corta Gavras, entre autres.
Bonjour, je m'appelle Moira Cristia, je suis historienne et chercheuse du CONICET, le Conseil national de recherche scientifique et technique de l'Argentine. Dans mon cas, je proposais d'essayer de mettre en dialogue l'histoire de la résistance culturelle en Argentine pendant la dictature, avec des expériences de dénonciation publique de la violation des droits de l'homme par les militants argentins, notamment le cas de l'AIDA, l'Association internationale de défense des artistes victimes de la répression dans le monde, et sa campagne pour l'Argentine. Pour la nuit des idées, nous avons préparé un documentaire avec l'aide des réalisateurs Patricio Chados et de Violeta Ramírez et la participation de l'équipe de Memoria Abierta qui nous ont aidés à sélectionner des extraits des témoignages de ces archives d'histoire orale. Nous avons également compté avec la générosité de l'Institut national d'audiovisuel de France qui nous ont autorisés à montrer des extraits des archives télévisées inédits. C'est alors pour moi un grand plaisir de pouvoir communiquer des résultats d'une recherche qui m'a pris plusieurs années et qui a abouti dans un ouvrage qui sortira mi-février à Buenos Aires chez Imago Mundi. L'ouvrage s'appelle AIDA, una historia de solidaridad artística transnacional. AIDA, une histoire de solidarité artistique transnationale 1979-1985.
Une manifestation ce matin à Paris pour réclamer la libération d'une centaine d'artistes argentins disparus depuis 5 ans. C'est une manifestation organisée par l'Association internationale de défense des artistes, l'AIDA. Dominique Thiers.
Où sont-ils? Où sont les 100 musiciens, poètes, cinéastes ou comédiens disparus, symbolisés par ces bannières peintes par des artistes français?
Jean-François Kahn, vous nous avez amené aujourd'hui deux invités, Claude Lelouch, Ariane Mouchkine, qui reviennent d'une tournée en Amérique du Sud où ils sont allés enquêter sur le sort de plusieurs artistes, de plusieurs dizaines d'artistes qui sont emprisonnés aussi bien en Uruguay qu'en Argentine qu'au Chili, Jean-François.
Vêtus de noir, avec autour du cou une écharpe blanche, 5000 personnes marchent en silence au rythme des tambours.
Je crois qu'à partir de cette demande, à partir de ce besoin que les artistes qui sont isolés, je dis bien qu'ils sont isolés là-bas, c'était pour eux plus un réconfort, notre action. Je veux dire, on n'a pas fait une action précise.
Que sont devenus les 15 000 Argentins dont on est sans nouvelles depuis le putsch du général Videla en mars 1976 ? Enlevés en pleine rue, arrêtés sur leur lieu de travail ou chez eux ?
Et en Argentine, dernier pays, vous avez aussi constaté que les artistes étaient, sinon les premiers, enfin, parmi les grandes victimes de la répression.
Ils ne sont pas ni les premiers, ni les plus nombreux. Il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup d'artistes. Allons au moins d'abord leur manifester notre solidarité sur place, nous informer de ce qui se passe, comment est-ce que, disons, l'opinion internationale, des artistes et puis des artistes qui pourront alerter autour d'eux, comme ce que nous venons faire là, en quoi est-ce que ça peut les aider?
Ces femmes peuvent en témoigner. On les appelle les mères de la place de Mai. Tous les jeudis, immuablement, elles se rendent devant le palais de la présidence à Buenos Aires. Leurs fils, mari ou fille ont disparu. Peu à peu, une timide résistance s'organise.
Je pense que la seule résistance possible actuellement dans ces pays-là, elle est sur le terrain culturel.
Et puis demain, une autre manifestation pour l'Argentine. Une manifestation pour les artistes disparus dans ce pays. Une manifestation à laquelle participeront quelques-unes des maires de la place de Mai. Cette manifestation est organisée par l'organisation AIDA. Alors, avec nous, Costa Gavras, le cinéaste de Z, de Claire de Femme, Costa Gavras. Alors, demain, vous manifestez donc à Paris. Comment cela va se passer?
Demain, d'abord, il faut dire qu'il y a 100 artistes qui sont des peintres, des écrivains, des sculpteurs, des musiciens, des photographes argentins, qui sont disparus, certains depuis 5-6 ans. Il n'y a aucune nouvelle d'eux, leurs familles ne savent pas s'ils sont toujours vivants ou s'ils sont morts. Or, AIDA a décidé de faire une manifestation qui démarrera à place du Panthéon demain matin à 11h, sans drapeau peint par 100 peintres, symbolise les 100 prisonniers, 100 musiciens sont... amorceront le cortège et qui partira du Panthéon jusqu'à la place de la Concorde en passant par le Pont Neuf. Et nous essayons, enfin AIDA essaye de sensibiliser l'opinion publique avec cette manifestation et rappeler que sans personne, sans artiste, en dehors des autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres prisonniers politiques et d'autres disparus, mais enfin, nous nous occupons qu'il y a des artistes, sont toujours disparus et que leurs familles n'ont aucune nouvelle.
Ariane, un jour, a proposé qu'on fasse une manifestation dans Paris avec des grandes bannières, en demandant aux artistes, aux plasticiens, de créer des œuvres. Et comme un peu près d'une centaine, si l'on prend le mot, si l'on attribue le mot artiste, ce qui est parfaitement légitime, aux écrivains, aux plasticiens, aux artistes interprètes, aux chanteurs, aux danseurs, etc., à toutes les personnes qui s'appuient sur la fiction et l'imaginaire pour produire des œuvres, il y avait près de 100 artistes qui avaient disparu en Argentine. Alors bien sûr, une idée qui ne nous, un principe qui ne nous a jamais quitté, c'est de dire que l'artiste, par nature, cherche à s'adresser à l'ensemble d'une population proche et à l'ensemble de la population de la Terre, et que donc nous emparer de la cause des artistes disparus en Argentine, c'était parler de tous les disparus.
Bienvenue aux amis d'actualitédx.com.ar pour une nouvelle édition de notre rubrique sur les ondes courtes et le web, une production de Arnaldo Slaen. Dans cet espace, nous vous proposerons quelques-unes des nouvelles les plus pertinentes du monde de la radiodiffusion. Aux États-Unis, la Voix des Amériques a célébré son 79e anniversaire le 1er février. Ses débuts remontent à 1942 avec une première étape très modeste. Un journal télévisé de 15 minutes sur ondes courtes pour l'Allemagne à partir d'un petit studio à New York. Alors, la Seconde Guerre mondiale faisait rage. Aujourd'hui, VOA est un organisme d'information financé par le gouvernement américain, mais indépendant sur le plan éditorial, qui atteint plus de 280 millions de personnes par semaine dans le monde entier, dans plus de 40 langues. Ses récits, qui couvrent la variété de l'existence humaine aux États-Unis et dans le monde entier, sont diffusés à la radio, à la télévision et sur les plateformes numériques, et sont accessibles sur les téléphones portables et les réseaux sociaux. Les informations de la Voix sont diffusées par un réseau de plus de 2500 stations affiliées. Lors de la première diffusion en 1942, quelques semaines avant l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, les auditeurs ont entendu pour la première fois la chanson patriotique américaine « The Battle Hymn of the Republic ». Et le radiodiffuseur William Harlan a déclaré « Nous vous apportons les voix de l'Amérique ». Aujourd'hui et chaque jour, à partir de maintenant, nous vous parlerons de l'Amérique et de la guerre. Les nouvelles peuvent être bonnes pour nous, les nouvelles peuvent être mauvaises, mais nous vous dirons la vérité. Ce credo est inscrit depuis 1976 dans la charte de la Voix qui, selon la loi, exige de l'organisation qu'elle serve constamment de source d'informations fiables et dignes de confiance. VOA fait partie de l'Agence américaine pour les médias mondiaux, l'agence gouvernementale qui supervise toutes les émissions internationales américaines qui ne sont pas militaires. Les journalistes professionnels de la Voix produisent quotidiennement des dizaines d'articles sans interférence du gouvernement américain. Au Pérou, le vicariat apostolique d'Iquitos a promu une initiative globale visant à apporter l'éducation aux communautés rurales et indigènes des provinces de Maynas et de Loreto Nauta afin d'améliorer l'accès à l'éducation à distance pour les enfants et les jeunes de Loreto offerte par le ministère de l'Éducation par le biais du programme « J'apprends à la maison » et la direction régionale de l'éducation de Loreto avec le programme « Apprendre au son du manguaré ». Comme le rappelle le Centre amazonien d'anthropologie et d'applications pratiques, Loreto a été l'une des premières régions durement frappées par la pandémie de Covid-19 et l'une des plus affectées par les mesures de confinement, laissant à l'abandon des milliers d'écoliers vivant dans des zones reculées et dont les maisons n'ont pas accès à l'Internet, à la télévision ou à la radio. Selon les informations fournies par la Direction régionale de l'éducation de Loreto, seulement 52% de la population scolaire de la région a accès aux services d'éducation à distance, dans ces différentes alternatives. face à cette situation dans le but de faciliter la diffusion virtuelle du matériel d'orientation des programmes à distance pour les enseignants, les parents et les élèves des communautés éloignées de la région. L'église d'Iquitos procède à la rénovation et à l'agrandissement de l'émetteur de la station de radio du vicariat apostolique, la Voz de la Selva, la voix de la jungle. En outre, grâce aux dons, environ 2500 récepteurs radio sont en cours de fabrication et seront distribués avant la rentrée scolaire cette année aux ménages qui n'ont pas les moyens financiers suffisants pour acheter une radio ou un poste de télévision, et dans le pire des cas, n'ont pas accès à l'électricité. L'objectif est d'atteindre 7000 récepteurs radio avant la rentrée scolaire, lesquels seront écologiques, c'est-à-dire qu'ils seront fabriqués en matériaux recyclables et équipés de panneaux solaires et de batteries rechargeables intégrées, ce qui améliorera considérablement leur utilisation. Il ne dépendra pas de piles, sera économique et ne contribuera pas à la contamination des terres et des eaux des fleuves amazoniens, a expliqué Mgr Miguel Fuertes, administrateur diocésain du vicariat apostolique d'Iquitos, dans une interview accordée à l'agence de presse de la Conférence épiscopale péruvienne. Et ainsi se termine ce programme en français de RAI l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.